les podcasts de Radio Vatican.
On la surnomme la Grèce des Caraïbes. Porto Rico est en effet en état de faillite. Le 3 mai dernier, le gouverneur de l'île, Ricardo Rossello, a demandé à ce que son territoire soit déclaré en situation de faillite afin de pouvoir officiellement restructurer sa dette, évaluée à 73 milliards d'euros. Territoire associé aux États-Unis au point qu'on le nomme parfois le 51e État américain, Porto Rico n'a pourtant rien de l'opulence de son grand voisin. 45% de ses 3,5 millions d'habitants vivent sous le seuil de pauvreté et ces dernières années ont vu une dégradation rapide des services publics comme la fermeture de dizaines d'écoles. Les Portoricains ont par ailleurs émigré par dizaines de milliers vers les États-Unis. Françoise Lézière est professeure à l'université Rennes 2. Elle a coordonné l'ouvrage Porto Rico à la croisée des chemins paru en mars 2017 aux presses universitaires de Rennes. Elle revient sur le statut particulier de cette île prisonnière de ses liens avec le géant américain.
Les causes actuelles remontent à quand même une histoire un peu chaotique. En fait, Porto Rico, comme l'île de Cuba, est resté sous la tutelle espagnole jusqu'à la fin du 19e siècle, alors que la plupart des autres pays que le royaume espagnol avait conquis s'étaient libérés dans la première moitié du 19e siècle. Et donc, Cuba et Porto Rico sont restés sous la domination espagnole jusqu'à la fin du 19e siècle, jusqu'à cette guerre qui a eu lieu en 1898, qu'on a appelée la guerre hispano-américaine, où l'Espagne a perdu ses deux dernières colonies, qui sont devenues, si vous voulez, à nouveau des sortes de possessions, une situation, on peut dire, de néocolonialisme, mais cette fois-là, nord-américain. Tout la première moitié du XXe siècle a été assez difficile aussi, jusqu'à ce statut de 1952, qui a fait de l'île de Porto Rico un État libre associé, c'est-à-dire un pays autonome, mais non souverain.
Porto Rico est considéré souvent comme le 51e État américain, pourtant il ne l'est pas.
Non, il ne l'est pas. Il y a eu trois référendums en 67, en 93, en 98, et à l'issue de ces trois référendums, Porto Rico est resté ce qu'il est, c'est-à-dire cet État libre associé. Et ce que souhaiteraient les Portoricains, c'est plutôt quelque chose qui serait comme une république associée aux États-Unis. Il n'y a pas vraiment une volonté dans la majorité de la population de devenir le 51e État des États-Unis, même si les Portoricains reconnaissent aussi que l'aide américaine les a favorisés d'une certaine manière dans le domaine économique et social.
Comment les Portoricains vivent cette crise? On sait qu'il y a eu une émigration depuis de nombreuses années de Portoricains vers les États-Unis, émigration qui s'est accélérée ces dernières années en raison de la crise. Comment à Porto Rico on vit un peu cette crise économique et sociale?
Il y a à peu près 20% de la population active qui est partie vivre aux États-Unis, ce qui est énorme, sur un peu plus de 3 millions d'habitants. C'est sûr que ça crée obligatoirement des conflits internes et externes entre les Portoricains qui sont restés à Porto Rico et qui peuvent vivre très mal, et les Portoricains qui sont allés vivre aux États-Unis, qui vivent pas toujours très bien, mais quand même mieux, se créent forcément des clivages autant affectifs que politiques et que culturels.
C'est-à-dire qu'il y a une fracturation de la société portoricaine en raison de cet exil?
Oui, certainement. Il est certain que le temps fait son œuvre, comme dans tous les processus migratoires. Quand on quitte son pays, on découvre une autre culture et on finit par s'adapter à cette nouvelle culture. Donc ce processus-là, il existe aussi à Porto Rico, mais c'est amplifié par le fait que cette domination nord-américaine, malgré tout, est assez mal vécue par les Portoricains, qui pour la plupart ont conservé leur langue et continuent à parler l'espagnol, à publier en espagnol et à véritablement protéger leur identité et essayer de la construire.
Il y a une forme de colonialisme culturel, économique qui est profondément ressentie chez les Portoricains.
Oui, la société est très, 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 très américanisée et c'est sûr que les Portoricains le ressentent comme un fardeau quand même lourd à porter. On dit tout le temps actuellement que Porto Rico, c'est la Grèce des Caraïbes pour l'importance de sa dette et pour les problèmes économiques qu'elle a et qui sont réels. Mais il faut aussi quand même souligner que quand on voyage à Porto Rico, quand on va à Porto Rico, il y a quand même une misère sociale qui est assez troublante et assez triste à voir. des clivages sociaux aussi qui sont assez forts. Et aussi, on voit quelque chose qui est assez frappant, c'est cette présence militaire et policière nord-américaine qui fait que les Portoricains, quelque part aussi, se sentent en permanence surveillés.
Vous avez parlé du malaise social et puis de ce contrôle policier et armé nord-américain. Est-ce qu'il y a des tentatives politiques de changer cette donne-là? Comment ça se passe?
C'est-à-dire qu'il y a un mouvement indépendantiste qui n'est pas majoritaire, mais qui existe et qui a été quand même plutôt réprimé d'une certaine manière par les autorités américaines qui ont emprisonné les leaders indépendantistes. Et donc la situation n'est pas non plus très facile, et on peut le comprendre dans la situation politique telle qu'elle est. Il y a des mouvements de revendication qui ne sont pas majoritaires, qui ont beaucoup de mal à s'exprimer dans le contexte actuel.
Un entretien réalisé par Olivier Bonnel.